Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Tout va aller mieux, la preuve, le président de la République est détendu. Pour preuve, il a reçu à l'Élysée deux youtubeurs, McFly et Carlito, pour un jeu d'anecdotes, une sorte de vrai, pas vrai. En attendant, on l'oublierait presque, l'état d'urgence a toujours cours, et ce jusqu'en septembre prochain, et avec l'absence de débat public sur la gestion de la crise sanitaire. Et dans le même temps, certains militaires donnent de la voix, et parlent rien moins que de risques de guerre civile, les policiers sont en colère, se sentent en danger, parlant d'une crise, de vocation, de quoi débattre, non ? Le grand débat, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi, émission d'actualité. Autour du plateau, ce mois-ci, Tanguy-Marie Pouliquen, religieux de la communauté des Béatitudes, prêtre et professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour Tanguy-Marie.
Bonjour, bonjour à tous.
Emmanuel Perrier, religieux dominicain, lui, prêtre aussi, et professeur de théologie au Studium du couvent des Dominicains à Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour une fois, je me suis essayé à une, on va dire, une introduction un petit peu plus engagée, qui peut paraître un peu, on va dire, alarmiste ou autre. Mais c'est vrai que ça m'a surpris, bon, ça m'a laissé plus qu'interrogatif. Et c'est ma petite surprise. Pour vous, donc McFly et Carlito, qui sont parmi les principaux youtubeurs, les youtubeurs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc des hommes et des femmes qui, sur YouTube, ont en quelque sorte leur chaîne et qui sont largement suivis. Certains dépassent plus de 10 millions de vues, voire 15 millions ou plus pour certaines de leurs vidéos. Ça fait donc une bonne partie de la France à chaque fois. Ils ont été reçus donc à l'Élysée par Emmanuel Macron pour une vidéo après qu'Emmanuel Macron leur ait lancé un défi. Si l'une de vos vidéos pour expliquer les gestes barrières atteint les 10 millions de vues, je vous recevrai à l'Élysée. C'est une vidéo sympathique sous certains aspects, mais c'est vrai que quand même ça pose question quand on sait qu'on est encore en état d'urgence. Alors je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. Allez, on commence par vous, Tanguy-Marie Pouliquen. Alors, où est-ce que vous le découvrez à l'instant ?
Non, je découvre. Ça me fait penser, c'est marrant, à l'exercice juste avant l'élection présidentielle de Monsieur Hollande, lorsqu'il avait fait ce livre d'entretien direct avec deux journalistes, il avait lâché tout ce qu'il disait sur la démocratie, même en lâchant quelques informations, je dirais, un petit peu secrètes sur les opérations de la DGSE. Et donc, une opération de transparence, une opération de proximité. Je n'en dirai pas plus, mais c'est cette volonté de se rapprocher du peuple à une échéance fatale ou intéressante pour Monsieur Macron et qui a besoin de se reconnecter avec les Français, du moins avec les jeunes. Il y a aussi bien sûr un intérêt politique derrière, de préparer une jeunesse à une image de son président proche d'eux. Voilà, verticalisation du pouvoir. Ce qu'est une verticalisation du pouvoir, moi je prends le mot verticalisation du pouvoir. On a accusé M. Macron pendant cette période de pandémique d'une verticalisation du pouvoir. Et là, c'est une manière d'être proche de chacun d'entre eux, des personnes, et d'être dans une perspective hyper dialogale. Voilà, peut-être un peu de bas étage, quoi.
Emmanuel Perrier, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je suis en train de...
Les bras vous en tombent ou pas ou...
Je suis en train de finir un excellent livre de Risgard Legutko, qui s'appelle « Tentation totalitaire dans les sociétés libres », qui vient d'un universitaire polonais, professeur universitaire polonais, et qui a été député européen, et qui, en tant que... ayant vécu dans les régimes communistes, a fait un livre pour dire un peu son étonnement de voir les sociétés, les démocraties libérales emprunter des traits tout à fait identiques à ceux des sociétés communistes. Et notamment, un de ces traits, c'est l'effondrement dans la médiocrité. C'est-à-dire qu'il y a une tendance lourde à l'inculture, à la médiocrité, à l'absence de finesse dans l'expression, dans les arts, dans la pensée, etc. D'où d'ailleurs notamment des passions qui s'exacerbent, parce que quand on n'a plus le langage pour discuter, pour dialoguer avec la raison, on n'a plus que les passions. Et Et ça me fait penser à ça. C'est-à-dire, c'est un exemple dans lequel un président, au lieu de tirer vers le haut, en fait, rentre dans ce jeu d'une médiocrité rampante.
Voilà, affaire à suivre. On verra ce qu'il en est du vote des jeunes. Il faut le rappeler que les jeunes en France, les 18-25 ans, quand même s'abstiennent massivement pour les élections. Je crois que c'est plus de 50% pour la dernière élection présidentielle, mais ils votent d'abord pour le Front National. En tout cas, c'était les dernières élections présidentielles. Alors l'autre actualité, enfin parmi les autres actualités, il y en a plusieurs. On a choisi donc de parler de ce qui se passe en Israël, du pass sanitaire et autres sujets à la fin, comme la colère des policiers, l'inquiétude des militaires, en tout cas certaines tribunes publiées, ou le prochain synode sur la synodalité convoqué par le pape François. Ça fait plein de sujets. Donc Israël et la Palestine, évidemment. Tout le monde a suivi ce conflit israélo-palestinien qui à nouveau a fait la une. Et pour ceux qui par hasard n'auraient pas suivi, donc le 10 mai dernier, les hostilités ont commencé. 1500 roquettes ont été tirées en tout. Des morts, il y en a. 230 côté palestinien, 12 côté israélien. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus pour commencer de lancer le sujet ? Entre autres peut-être cette déclaration de Monseigneur, alors je ne sais pas si je vais correctement, en tout cas le patriarche latin de Jérusalem, qui a parlé dit que le pays était au bord de la guerre civile. C'est vrai que ça peut paraître être un peu un euphémisme. Emmanuel Perrier, qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce conflit qui a fait la une des journaux ?
Alors, à vrai dire, j'ai appelé un de mes frères à Jérusalem pour avoir un peu des informations à la source. Donc ce qu'il m'a dit, c'est on est face à une exaspération pour de multiples raisons, un blocage politique du côté israélien parce que Netanyahou est en passe d'être destitué, mais la Knesset est incapable d'arriver à trouver un accord. On a du côté de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas qui n'a plus d'autorité, qui devait organiser des élections et qui décide de les annuler au dernier moment alors que ça fait 16 ans qu'elles doivent avoir lieu. Et puis on a aussi l'épuisement de sur les injustices, on pourrait dire, que ce soit du côté du grignotage du territoire palestinien par l'implantation des colonies, mais que ce soit aussi dans le traitement du Covid. Il y a eu deux poids, deux mesures. D'un côté, les juifs ultra-orthodoxes qui se réunissent à Maroun. Il y a 30 ou je ne sais plus combien, 50 morts dans un mouvement de foule. Ils se réunissent à 30 000 et la police accompagne le mouvement. Et d'un autre côté, les Arabes musulmans qui se réunissent le soir à la porte de Damas pour la fin du jeûne du Ramadan. Et là, la police les disperse à coups de gaz et à coups de boules puantes. Et puis il y a encore une affaire qui est en cours et qui fait que le problème risque de durer, c'est que la Cour suprême israélienne doit rendre un jugement dans quelques jours, un jugement sur l'expulsion de Palestiniens de Jérusalem parce que il y a quelques années, la Knesset a passé une loi permettant à tout juif pouvant exciper de titres de propriété antérieurs à 1948 de réclamer un droit sur les propriétés.
Donc dans Jérusalem, c'est la fameuse colonisation Sainte-Jérusalem-Est,
voilà.
C'est ça ?
Voilà. Et donc là, on a 15 familles palestiniennes qui sont menacées d'expulsion. Et la Cour suprême risque fort de, puisque la loi a été votée, risque fort de valider cette expulsion, ce qui veut dire que vous habitiez dans quelque chose pour lequel vous avez des titres de propriété, vous avez acheté légitimement, etc. Mais simplement, il y en a qui ont des titres, qui ont possédé la maison avant vous, et qui disent, non, c'est chez nous maintenant. Voilà. Et donc, vous êtes... voilà. Et puis, il y a eu donc des heurts qui ont commencé à enfler et qui sont allés jusqu'à l'esplanade de la mosquée. Et même au cours des heurts avec la police est entrée sur l'esplanade. Et là, le Hamas a donné un ultimatum, a dit que la police ne doit plus, frontière, ligne rouge, la police ne doit plus pénétrer sur l'esplanade. Et ils ont recommencé. Et c'est à ce moment-là que donc, le Hamas a lancé les roquettes. Et alors, juste, je finis juste là-dessus, c'est que il me disait, il y a deux aspects qui sont frappants, c'est que, premièrement, le Hamas a fait une démonstration de puissance. Ils ont lancé jusqu'à 3000 roquettes par jour sur Jérusalem. Et 3000 roquettes, ça veut dire que les systèmes de défense israéliens ne pouvaient plus contenir toute l'offensive.
Dans la presse, on lit 1500 roquettes, mais...
Ça a été jusqu'à 3000.
D'accord.
Et donc, les Israéliens ont répliqué, et Netanyahou en a rajouté, sur la bande de Gaza. Et là, donc, ce frère me disait, il faut bien se rendre compte, les Palestiniens ont vécu 10 jours avec toutes les nuits, tous les quarts d'heure, une bombe explosant près de chez eux. Donc, ils n'ont pas dormi pendant 10 jours. Et donc, il y a un effet de fatigue et d'épuisement qui se fait jour. Et donc, il concluait en me disant, mais ce qui fait peur aux Israéliens actuellement, c'est qu'on voit apparaître des conflits à l'intérieur même d'Israël. C'est plus seulement entre Palestiniens, de l'autorité palestinienne et Israël. C'est à l'intérieur d'Israël, il y a 20% de musulmans, et ces 20%, face aux juifs ultra-orthodoxes, commencent à montrer des heurts ethniques.
En vous donnant la parole, on peut dire aussi qu'il y a un cessez-le-feu qui est entré en vigueur le 21 mai au matin, voilà, et qu'il n'y a pas eu de prise de position de l'ONU, mais il y a eu une sorte de communiqué de quelques puissances quand même à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité, dont la France, et qui appelle Israël, entre autres, à cesser les activités de colonisation et démolition et d'expulsion des Palestiniens, y compris à Jérusalem-Est. Tanguy-Marie Pouliquen.
Alors, je pense qu'au regard de ce conflit, de ce nouveau conflit entre Palestiniens et Israéliens, c'est bien les racines du problème qui peuvent être mis en évidence. Ce n'est pas un problème qui surgit de nulle part, mais qui a des racines historiques. Alors, quelques grandes dates depuis la guerre, la reconnaissance de l'État d'Israël en 48, le cessez-le-feu en 49, cette ligne de cessez-le-feu qui finalement authentifie pour l'ONU, les frontières d'Israël, il y a donc en gros une méfiance endémique entre sionistes, israéliens et palestiniens. Voilà. L'acceptation de deux États qui auraient pu se faire dès le départ, d'ailleurs un peu à l'avantage des musulmans ou des Arabes, aujourd'hui...
Deux États reconnus par le Saint-Siège, pour le coup, si je me trompe pas.
Oui, voilà, il y aurait pu... Aujourd'hui, c'est toujours la théorie de deux États qui est dominante. D'ailleurs, Israël n'est pas revenu en arrière, mais de facto, elle revient en arrière à cause de cette méfiance qui a grandi. Il y a la guerre de 67, il y a la guerre de 73... Et puis après, il y a la prise de pouvoir de gouvernement d'extrême droite, dont M. Netanyahou est un représentant. Mais avant lui, il y a eu ce passage clé de...
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, juste? Parce que la défiance, on la connaît, c'est
oui.
La défiance endémique. Mais là, on va dire...
Mais comme le disait le frère Emmanuel, il y a une exacerbation, puissante. C'est-à-dire il y a une injustice incroyable. Alors prenons une application de cette injustice. Bon, la fragmentation historique de la Cisjordanie. 60% du territoire est contrôlé entièrement par l'armée israélienne, avec 131 colonies, 380 000 colons, ce qui fait que... Et des blocs qui sont... des blocs de colonies qui sont des blocs qui sont des vraies villes universitaires, des vraies villes industrielles. Donc jamais Israël ne reviendra en arrière. Alors c'est vrai qu'il y a eu de temps en temps des rétropédalages, notamment dans la vallée de Shiloh. Mais il y a une volonté, je dirais, latente de la droite religieuse, de confondre la terre d'Israël avec la terre sacrée biblique. Et donc, il y a une sorte de collusion mentale de vouloir identifier les deux. Alors, la situation...
Donc, c'est une injustice faite en grande partie aux Palestiniens. Enfin, c'est ce qu'on entend dans vos deux
prises d'opposition. Une injustice selon une méfiance causée par les Palestiniens. Vous voyez, c'est dans les deux sens. Parce que les trois guerres, elles ont été déclenchées par les Arabes, elles n'ont pas été déclenchées par les Israéliens. Et donc, évidemment, quand il faut voir Israël, c'est la moitié d'un département français. Donc, en l'espace de quelques heures, vous coupez même, il y a 20 kilomètres entre les deux extrémités, entre la mer et l'avancée la plus forte de la Cisjordanie. 20 kilomètres, ça se fait en une heure. Rien. Donc, c'est pour ça que la volonté de reconnaissance de deux États séparés, la condition, c'était que la Palestine, si elle était reconnue, soit un État démilitarisé, sans armée, sans rien. Donc il y a des possibilités si effectivement la Cisjordanie, Gaza, qui formerait un même État, soit entièrement démilitarisé. On voit que avec la situation actuelle, alors que Gaza est contrôlé, entouré de grillages contrôlés par l'armée israélienne, ils arrivent à faire passer des milliers de roquettes. Donc il y a pas de confiance. Sharon avait dit on va construire le mur. C'est vrai que le mur a bien fait ralentir les actes terroristes en terre d'Israël, mais il a dit une génération. Peut-être que d'un point de vue réaliste, ça sera la situation, mais il faut semer une culture de paix, et pour l'instant, elle n'est pas là.
Voilà, et le pape François, qui une fois de plus a appelé à la paix, on a l'impression d'une voix qui crie dans le désert, que ceux qui en ont la responsabilité fassent cesser le vacarme des armes et empruntent les chemins de la paix. On va faire une première pause musicale et puis on va vous retrouver pour parler du pass sanitaire.
Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi, avec donc émission d'actualité mensuelle avec autour du plateau Tanguy-Marie Pouliquen, religieux est prêtre et professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse, et Emmanuel Perrier, également religieux et prêtre, lui donc dominicain, professeur de théologie au couvent des Dominicains à Toulouse. Deuxième sujet, c'est donc le pass sanitaire. Alors je sais pas, hein, j'ai pas trouvé de sondage, j'en ai pas cherché, je sais pas quel est l'avis des Français en général sur le sujet. Mais en tout cas, peut-être chez les chrétiens, ça pose question, comme le reste de la gestion de la crise sanitaire. Donc ce pass donc a été adopté après quelques aventures à l'Assemblée nationale. C'était donc le 10 mai dernier. Il prévoit en gros, pardon peut-être pour le manque de précision, que dans les rassemblements de plus de 1000 personnes, on doit avoir donc un pass sanitaire via une application, tous anti-Covid carnet, ou alors en format papier, on peut quand même, et il faut faire la preuve d'un test négatif RT-PCR ou antigénique, d'avoir un certificat de rétablissement du Covid-19, ou une preuve, une attestation, un certificat de vaccination. Voilà, pour certains, c'est normal. Quand on n'a pas fait d'effort, eh bien, on doit quelque part être un peu mis à l'amende, et pour d'autres, c'est gravissime. L'inverse. Tanguy-Marie Pouliquen, qu'est-ce que ça vous inspire, ce pass sanitaire? Est-ce que ça vous inquiète?
Bah, il faut trouver l'équilibre entre la solidarité nationale, c'est-à-dire mon comportement a un impact sur les autres. Donc, je peux être facteur d'expansion de la pandémie, et on sait que le rapprochement des personnes, la proximité des personnes est un des premiers leviers pour cette pandémie. Donc je ne suis pas un être seulement libre, individuel, faisant ce que je veux avec ma conscience individuelle. Ma conscience personnelle donnera la décision ultime, mais elle situe ma personne comme un être qui doit participer au bien commun, et aujourd'hui le bien commun c'est quand même la santé de tous. Et d'un autre côté, il y a l'émergence à travers ces leviers numériques généralisés. Tout le monde a un smartphone dans la poche maintenant, de l'émergence donc d'une société de contrôle avec une sorte de concentration. On ne sait pas où ira toutes ces données.
Il y aura quand même une autre application, c'est-à-dire tous anti-Covid vérif, c'est-à-dire dans ces événements les organisateurs téléchargeront cette application et vos données personnelles ne pourront pas être utilisées à une autre fin.
Voilà, donc la question ultime c'est là, c'est ça. En France, je dirais la collusion des fichiers est interdite. Donc on peut utiliser des fichiers numériques que en fonction d'applications spécifiques, mais de rassembler tous ces fichiers, c'est interdit, encore, voilà. Donc ça, c'est la position française, à la différence de la position chinoise, où tous les fichiers sont centralisés, etc. Après, ça va être le domaine d'extension de ce contrôle. Est-ce qu'on va aller, pour l'instant, c'est négatif, est-ce qu'on ira dans des lieux de rassemblement beaucoup plus petits,
ça concerne sport, aussi, musée, j'ai oublié de préciser, ça concerne aussi des vols, voire certains trajets en France. Entre la France et la Corse.
Bon, en tout cas, l'extension de l'application. Est-ce qu'on va restreindre des petits lieux, salles de sport, musées, cinéma, restaurants? En Chine, c'est le cas. Voilà. Donc, est-ce qu'à un moment, évidemment, on avance toujours en coupant le salami par tranche fine. Est-ce qu'à un moment, on va étendre ça? Voilà. Attention, vigilance démocratique, et puis on espère que l'état d'exception finira bientôt pour que la régulation avec le Parlement soit, et des manifestations et la critique directe soit un regard pour retrouver ces libertés publiques fondamentales qu'on ne peut pas mettre à la poubelle.
Emmanuel Perrier, je cite juste Claire Hédon, qui est défenseur des droits et qui donc a étrié le gouvernement en disant qu'il y avait des risques de discrimination forts, en se demandant si ça allait s'appliquer aux enfants et en disant que le texte n'était pas assez précis, demandant si ça s'étendait aux professionnels, aux bénévoles dans des lieux accueillant du public. Bref, quel est le niveau de gravité? J'aurais d'autres relances, mais on va commencer juste par celle-là.
Moi, l'argument de la discrimination ne me convainc pas dans la mesure où c'est un argument qui doit être bien pesé. Une discrimination, c'est un traitement inégal pour une raison qui ne rentre pas dans la raison pour laquelle on devrait faire un traitement inégal. Hein. Ici, on est face à des situations d'inégalité face au Covid. Hein. Ceux qui l'ont, ceux qui ne l'ont pas eu, ceux qui l'ont eu, ceux qui ne l'ont pas eu, ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne sont pas vaccinés, ceux qui sont jeunes, ceux qui sont vieux, ceux qui sont malades, ceux qui sont bien portants. Donc, les critères de cette idée de discrimination, c'est le Covid qui discrimine. Bon. Maintenant, en revanche, je serais beaucoup plus réservé sur... alors, en reprenant ce que vient de dire le frère Tanguy Marie, à savoir, on est tous bien d'accord sur le fait que... Enfin, il s'agit d'être tous bien d'accord sur le fait que qu'on ne peut pas lutter contre la maladie dans son petit coin. C'est-à-dire que c'est une maladie qui se transmet, donc qui est le propre d'une vie sociale, et toute vie sociale implique des contraintes. Bien.
Si vous permettez, je ne veux pas trop vous couper, mais quand même, parce que ça, je pense que beaucoup d'auditeurs l'ont en tête, il y a quand même une question, c'est de savoir si quand on est vacciné, on le transmet moins ou pas. C'est quand même une question importante.
Alors j'y viens.
Et il y a beaucoup d'arguments sur ce sujet.
Alors j'y viens. C'est-à-dire que après, il y a la question de l'opportunité. Qu'est-ce que c'est que ce pass sanitaire? En quoi est-ce que ça peut aider à réduire la propagation du virus? Et c'est là où ça ne marche plus. Parce que le pass sanitaire n'est pas du tout un outil fiable pour dire vous n'avez pas de virus et vous n'allez pas le transmettre. Ça n'est pas un outil. Deuxièmement, il y a un aspect dans la loi qui est très gênant, qui est qu'il n'a pas de date limite. Il n'a pas été fixé pour une date limite. Hein. Autrement dit, on restreint des libertés publiques, mais sans indiquer que c'est de manière purement temporaire. Troisièmement, j'aimerais insister sur un autre aspect, enfin l'autre aspect que le frère Tanguy Marie a soulevé. En réalité, ce pass sanitaire n'est que la version française de ce qui arrive derrière, qui est le pass européen sanitaire, qui est en train de se mettre en place. Et ce pass européen sanitaire...
Qui concerne en l'occurrence les vols ou la possibilité d'aller d'un pays à l'autre.
On ne sait pas encore exactement dans quel... Enfin, je n'ai pas lu dans quel est le champ d'application précis, hein, mais on voit très bien ce qui est en jeu derrière. C'est que c'est quelque chose qui est voulu par un pouvoir politique... Bien souvent, sans aucune demande des médecins, parce qu'il faut bien se rappeler que le conseil scientifique autour du président a dit que il voit, bon, pourquoi pas, mais ça ne servirait pas à grand-chose. Hein. Donc, c'est pas une demande, c'est pas une exigence du point de vue sanitaire, mais c'est une exigence du point de vue politique. Et là, on doit commencer à se demander, mais alors, pourquoi est-ce qu'on veut ça? Si, peut-être que ça peut être utile à la marge, mais si l'utilité n'est pas véritablement sanitaire, si l'utilité est politique, qu'est-ce qu'on cherche derrière? Qu'est-ce qu'on veut derrière?
La confiance, retrouver la confiance, une certaine confiance collective du point de vue de se projeter dans, par exemple, le tourisme. Je pense que le pass sanitaire européen est applicable au 1er juillet. Et donc ça crée un effet de projection à travers une dynamique de confiance. Moi je pense que, en tout cas la visée politico-économique, elle est de cet ordre-là, et d'une certaine manière elle est recevable. Il faut réinstaurer de la confiance et de la projection dans la dynamique de la société civile, et le pass sanitaire, d'une certaine manière, participe à, c'est quand même très important.
Juste, excusez-moi, j'introduis un élément. Je me suis baladé pour essayer de trouver des éléments de discussion. Alors j'en ai plusieurs, mais juste en citer un sur le fait qu'être vacciné fait que l'on transmet moins la maladie. Alors quand on va sur le site de l'OMS, à propos de la pandémie, on trouve des questions. Quels sont les avantages de la vaccination? Je cite, se faire vacciner peut également protéger les personnes autour de vous, car si vous êtes protégé contre l'infection et la maladie, vous êtes moins susceptible d'infecter quelqu'un d'autre. Très bien. Question suivante, toujours l'OMS, peut-on se passer de prendre des précautions après avoir été vacciné? Toujours l'OMS, même si un vaccin contre le Covid-19 vous protège contre les formes graves et létales de la maladie, nous ne savons toujours pas dans quelle mesure il vous prémunit d'une infection et vous empêche de transmettre le virus à d'autres personnes. L'OMS, dans deux questions différentes.
Bien sûr.
C'est invraisemblable quand même.
Non, c'est que... Mais c'est, je crois pas que ce soit invraisemblable.
Donc c'est quoi
plutôt,
dans le doute, il faut être précautionneux.
Non, c'est plutôt qu'on avance à pas compter. On ne sait pas quelles sont les conséquences, on ne sait pas comment... En revanche, ce qu'on sait, c'est que les premières études montrent qu'on attendait un effet beaucoup plus efficace du virus, du vaccin, un effet beaucoup plus efficace du vaccin, qui n'est pas si... Voilà, il y a des cas de gens qui ont été vaccinés et qui réattrapent le virus. Et deuxièmement, on voit aussi que le portage viral, c'est-à-dire vous n'allez pas développer une maladie grave, mais vous allez transmettre le virus, on voit que c'est plus important que ce qu'on attendait. Voilà. Et donc, d'où le fait que, bien évidemment que ça peut être utile d'avoir des vaccins, mais en même temps, ça ne prémunit pas. Et c'est pour ça que faire un pass sanitaire sur quelque chose qui n'est pas sûr de toute façon, c'est là où je ne suis pas totalement d'accord avec Frère Tanguy-Marie. Restaurer la confiance, pour moi, restaurer la confiance, c'est d'abord prendre des mesures, sortir de la gestion politique de cette épidémie pour revenir à une gestion beaucoup plus réaliste de l'épidémie, parce que c'est la diminution des impacts de la maladie qui redonnera confiance. C'est pas au pouvoir de donner confiance, c'est au fait que la maladie a beaucoup moins d'impact. Par exemple, je pense que pour retrouver confiance, il serait bien meilleur de ne plus avoir à porter les masques dehors, ce qui ne sert, toutes les études montrent que ça ne sert à rien, parce que on peut à nouveau se parler, on peut à nouveau se reconnaître, on peut à nouveau revivre un lien social normal, voyez. Et je pense que ça joue beaucoup plus pour retrouver la confiance que un pass sanitaire qui vit sur la peur. Voilà.
Certains avancent, alors parmi les plus viruleux opposants, font appel au code de Nuremberg. Vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est donc ce code qui a été écrit suite à la Seconde Guerre mondiale et aux horreurs du régime nazi, et qui préconise un certain nombre de recommandations, entre autres, demandant à ce que le consentement volontaire du patient soit assuré pour toute décision, donc type vaccin ou la passe sanitaire, mais le consentement éclairé. Et là, il laisse entendre que, comme pour les vaccins, en fait, on n'a pas forcément tous les éléments, où on ne donne pas toutes les infos. Ça, là, vous avez l'impression qu'on va trop loin, Tanguy-Marie ?
Moi, je pense qu'il y a... je pense que dans 6 mois, les choses, on aura tourné la page Covid, je pense, et qu'à ce moment-là, en reprenant une vie normale, on aura une relecture, je dirais, moins absolument critique sur certaines décisions qui ont été prises à la va-vite. On peut comprendre, pour des raisons politiques, mais aussi voire électorales, qu'il faut être précautionneux. Je comprends, un père de famille... il est précautionneux, voilà, je dirais. On n'a pas toutes les informations sur le fait de savoir si on est vacciné, on peut transmettre la maladie. Ben, on avance pas à pas, on voit bien, on avance par étapes. 1, 2, 3, 4. Cet été, on va retrouver à peu près une vie normale, je pense. Et que le fait que plus de 20 millions, c'est ça, de Français soient vaccinés, ben, le taux d'incidence va baisser, il est à 110, et il va baisser, il va continuer, et puis le taux de réplication, c'est-à-dire une personne qui a la maladie, ben, elle en redonne 0,7 actuellement, vous voyez, alors qu'à un moment, c'était 2, vous voyez ce que je veux dire. Donc on est dans une phase vraiment où les choses se calment, et avec le temps, la vie... normal de la société civile reprendra ses droits.
Voilà. Et ben on l'espère en tout cas. Donc on va faire une deuxième pause et puis on va continuer avec des actualités importantes s'il en est. Ces fameuses tribunes de militaires, peut-être qu'on peut balayer d'un revers de main en disant qu'elles c'était une forme d'instrumentalisation politique, mais il y en a eu plusieurs. Il y a eu un certain nombre quand même de signataires, la colère des policiers. Et puis Tanguy-Marie, vous souhaitiez nous parler, même si en général on ne prend pas les sujets d'église. Là, on fait une exception de ce synode sur la synodalité que le pape François a reporté pour 2023.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église. Pour ceux qui nous rejoindraient, cette émission d'actualité du mois autour du plateau, Tanguy-Marie Pouliquen et Emmanuel Perrier, tous les deux religieux et prêtres, et Tanguy-Marie Pouliquen, professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse, et Emmanuel Perrier, professeur de théologie au Studium du couvent des Dominicains à Toulouse. Emmanuel Perrier, vous vouliez donc dans ces sujets de la troisième partie donc revenir entre autres sur deux tribunes. C'est des tribunes donc qui ont fait grand bruit. Une première a été publiée, sauf erreur de ma part, donc le 9 mai, c'était dans Valeurs Actuelles. Tribune signée donc par 12 généraux à la retraite. Qui a été suivi par d'autres militaires et qui avait des mots très forts à propos du délitement de la France et s'inquiétant d'une possible guerre civile et du fait donc que des militaires demain pourraient être amenés à plus qu'intervenir sur le territoire national, voire même contre des compatriotes. Alors on a accusé ces militaires d'être proches du Rassemblement National. Marine Le Pen leur a fait des appels du pied. On peut dire qu'il y a une deuxième tribune qui a été publiée après, à nouveau, par Valeurs Actuelles, qui était ouverte à la signature et qui a eu de nombreux signataires. Je crois que c'est plus de 200 000 signataires, même si on ne sait pas trop qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce que vous vouliez attirer notre attention sur cette tribune dont je vais essayer de retrouver des extraits plus précis ?
Parce que, alors, ça, c'est une tribune signée par, au départ par quelques généraux, mais qui a été rejointe par énormément militaires à la retraite ou de militaires en exercice, sans compter tous ceux qui n'ont pas osé se prononcer par peur des rétorsions.
Alors, toute proportion gardée, c'est parfois ce qui est annoncé, c'est-à-dire qu'au regard du nombre de militaires en France... La première tribune a été rejointe par 1200 militaires.
Non, plus, beaucoup plus.
Et la deuxième, de fait, il y a beaucoup de monde, mais en fait, comme les signatures sont anonymes...
Je ne parle pas de la seconde, je parle de la première. La première reflète un sentiment profond et un sentiment, peut-être pas unanime, l'armée, la police, les forces de police ne sont pas unanimes, mais cela reflète... un sentiment profond et une inquiétude de la part des militaires. Pourquoi est-ce que c'est un problème ? Ou pourquoi est-ce que ça ne doit pas être écarté d'un revers de main ? Parce que pour beaucoup de ces militaires, notamment ceux qui sont à la retraite, ils ont connu les théâtres d'opérations extérieures en Afrique, au Kosovo, dans les Balkans, et ils ont connu ce que c'est que des guerres civiles. Ils ont vu sur place ce que c'était. Ils ont vu sur place comment ça se mettait, ça apparaissait. Et donc, on a affaire non pas à des personnes qui ont des idées abstraites, mais plutôt à des gens de terrain qui connaissent des réalités et qui ont surtout envie de ne pas les voir arriver parce qu'ils savent ce que ça représente. Bien. Donc, il y a une certaine gravité dans ce genre d'annonce. La deuxième chose, c'est que quand vous avez un militaire qui s'inquiète et que vous êtes civil, vous qui êtes civil, vous avez à vous inquiéter aussi. Parce que le militaire, c'est le dernier rempart. Vous avez avant les services de l'État, vous avez la municipalité, vous avez etc. Mais le militaire, c'est une fois que tous les remparts d'une société ne fonctionnent plus et que vous êtes obligé de faire appel à des combattants. Et donc...
Je permets juste de citer, dans la deuxième tribune, il est dit la chose suivante. « C'est un constat professionnel que nous livrons, car cette déchéance, nous l'avons vue, déchéance donc de la France, nous l'avons vue, déchéance, bon, on peut quand même commenter le mot, nous l'avons vue dans bien des pays en crise, pour reprendre ce que vous disiez, elle précède l'effondrement, elle annonce le chaos et la violence, et contrairement à ce que vous affirmez ici ou là, donc là c'est la deuxième tribune qui s'adresse aux hommes politiques, ce chaos et cette violence ne viendront pas d'un pronunciamento militaire, mais d'une insurrection civile. »
Et il y a beaucoup d'éléments de gens de terrain qui font écho à ces inquiétudes, hein, et qui disent qu'elles ne sont pas du tout infondées, pas du tout infondées. Donc ces tribunes sont des cris d'alarme de personnes qui sont au courant et qui voient de quoi il s'agit.
Et donc votre premier point, c'est qu'il faut y accorder du crédit.
Il faut y accorder du crédit.
Est-ce qu'il y a un autre point?
Il a disparu entre-temps, mais peut-être pas. Tanguy-Marie...
Tanguy-Marie Pouliquen, j'apporte juste une ou deux précisions qui me manquaient tout à l'heure. Voilà que je vais à nouveau un peu perdre dans mes notes. Mais donc, des militaires en France, personnel militaire, il y en a quand même 200 000. Et donc, on laissait entendre que ça faisait pas tant de militaires que ça. Je citerai juste un passage de la deuxième tribune aussi. C'est des passages frappants. Hein. Presque tous, nous avons connu l'opération Sentinelle. Nous avons vu de nos yeux les banlieues abandonnées, les accommodements avec la délinquance. Nous avons subi les tentatives d'instrumentalisation de plusieurs communautés religieuses pour qui la France ne signifie rien qu'un objet de sarcasme, de mépris, voire de haine. Il y a des propos quand même extrêmement forts dans ces tribunes. Qui sont à l'adresse des hommes politiques, qui sont peu habituels.
Je voulais juste rajouter, ça m'est revenu, c'est que
rapidement.
Oui, c'est que la crainte pour ces militaires, c'est compte tenu des conditions actuelles, de ne pas avoir les forces nécessaires pour pouvoir faire face. Et il y a un aspect qui est la guerre civile elle-même, où en tout cas des phénomènes d'explosion de violence, parce que ce n'est pas nécessairement de la guerre civile, mais des phénomènes d'explosion de violence assez radicaux, mais avec la crainte de ne pas pouvoir y faire face. Et d'autre part, il faut rajouter derrière le découragement et une lassitude dans les forces de police et les forces de sécurité, hein, qui sont mises à l'épreuve depuis 5 ans, parfois dans des conditions assez scandaleuses, qui sont utilisés par le pouvoir parfois dans des conditions assez scandaleuses, et notamment de violence sur des personnes. Et y a un effet de découragement, il y a un effet de désespoir qui là aussi doit faire réfléchir. Moi, je souhaiterais qu'on ait des hommes politiques qui, au lieu de croire qu'ils sont mis en cause, au lieu de croire cela, se disent « bon, écoutons, et nous sommes là pour travailler ensemble. Voilà. »
Tanguy-Marie Pouliquen, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous accordez du crédit aussi à ces tribunes qui ont été aussi largement critiquées ou montrées du doigt comme une forme d'instrumentalisation politique? On a même fait appel à certaines périodes de l'histoire. Le push des généraux, même si on ne voyait pas trop forcément le rapport. Est-ce que ça vous inquiète? Quelle lecture vous en faites?
Moi, je pense que la première responsabilité des hommes politiques, que ce soit des municipalités au plus haut niveau de l'État, c'est de garantir l'unité du pays. Pour garantir cette unité du pays, il faut une justice sociale et il faut permettre aux jeunes populations qui arrivent, c'est vrai aussi de l'immigration, d'être intégrées ou assimilées selon un débat ouvert. Il faut que chacun trouve sa place et de donner un avenir à chacun. Je pense que...
Quel est le rapport, si je peux me permettre?
Je pense que, la violence, elle naît à partir de quoi? Elle naît à partir de l'injustice. C'est-à-dire que les gens ne trouvent pas leur place, ne sont pas enracinés dans leur terre parce qu'ils ne voient pas un avenir. Donc il faut revenir à la racine du problème. La racine du problème, c'est de donner à chacun, à la fois un sentiment d'appartenance au terrain, mais le sentiment d'appartenance au terrain, il sera à travers une reconnaissance à la garde du pays, parce qu'on a l'impression que l'on va avoir un travail, qu'on va pouvoir fonder une famille, qu'on va pouvoir vivre dignement, qu'on va pouvoir se former.
Donc il faut
relancer l'ascenseur social.
Mais ces militaires disent pas forcément l'inverse. Et puis parfois même l'armée est un lieu justement d'ascension, d'ascenseur social.
Donc c'est un message envoyé aux politiques pour dire, prenons les choses par le bon côté et reprenons le problème à la racine et allons de l'avant. Moi j'avais noté cette phrase de Charles Péguy, il faut voir ce qu'on voit. Il faut voir ce qu'on voit.
Qu'est cité dans la tribune?
Je ne savais pas, parce qu'il était cité aussi dans un autre document que j'avais lu ailleurs. Il faut voir ce qu'on voit, c'est-à-dire, il faut voir ce qu'on voit, mais il faut voir où on veut aller. Voilà, où on veut aller. Et où on veut aller, c'est de reconnaître... Je veux faire le lien avec Tutti Fratelli du pape François. Il promeut quoi? Une pastorale de la rencontre. Il faut pas que les communautés d'appartenance soient cloisonnées, séparées. Le dialogue, se rencontrer, s'écouter, apprécier la richesse de l'autre est-ce qu'on est renvoyé chacun à nous-mêmes, hein, pas seulement les politiques, mais est-ce qu'on est prêt à aller... Dimanche, moi, je suis allé en vélo faire un tour au Mirail pour voir de mes yeux, je dirais, le contexte de cet espace qui est qualifié de non-droit par certains sociologues. J'ai pas vu immédiatement un espace de non-droit. J'ai vu quelques barres d'immeubles pas très propres, c'est vrai. J'ai vu des barres d'immeubles très propres, bien organisées. Donc je me suis dit, tiens, allons vers ces communautés qu'on discrimine ou qu'on dit cause de violence. Allons à la rencontre. On est renvoyé chacun à notre responsabilité.
Le synode, vous vouliez en parler, il nous reste 5 petites minutes. Voilà, chose promise, chose due, parce qu'on aurait pu de fait continuer à parler de ce sujet. Le synode, c'est donc, je vais vous laisser réexpliquer ce que sont les synodes des évêques. En tout cas, il y en a un qui était prévu donc, et qui a été reporté, c'est pour 2023. C'est un synode justement sur la synodalité. Ça peut paraître un peu jargonneux, mais heureusement, on en parle souvent à cette antenne. On a même fait une émission là-dessus. Donc c'est une nouvelle manière de gouverner dans l'Église ou de pousser à un gouvernement à partir du peuple des fidèles et des baptisés. Alors juste, il y a deux étapes, donc il va y avoir des conférences dans chaque pays où réflexion va être donnée donc, sur ce thème, et après des conférences continentales, et ensuite avoir lieu ce synode en 2023. Qu'est-ce que vous vouliez nous en dire?
La nouveauté un petit peu que lance le pape François, c'est que, il reporte le synode qui était prévu pour l'année prochaine à une date ultérieure de 2023. Donc, il en fin de compte, au lieu de se dire simplement on reporte le synode à une date ultérieure d'un an, on va élargir la procédure de préparation de ce synode en intégrant le niveau local, continental, et après de créer un instrument de travail pour préparer directement le synode romain qui... Donc ça c'est nouveau, c'est-à-dire que le pape veut, dans sa théologie du peuple de Dieu, d'être à l'écoute du peuple de Dieu, d'être à l'écoute de la grâce baptismale qui repose sur tous les baptisés. Toute la création aspire à la gloire des fils de Dieu, donc l'esprit créateur, il est en chaque personne. Donc le pape veut parier sur ce sensus fidei que le Christ, à travers son esprit, parle à tous les baptisés. Et donc dans cette logique finalement de mise en avant du discernement des esprits, qui est quand même le cœur de la spiritualité du pape François, on va écouter ce que l'esprit dit aux églises, ce que l'esprit, c'est ça le fond. Alors du point de vue de l'articulation des niveaux de pouvoir, le niveau synodal, on pourrait dire, c'est l'écoute de la base, et après vous avez le niveau collégial, et puis vous avez le niveau central. Alors certains vont dire, attention, synodalité, c'est l'Église devient une démocratie, tatati, tatata. Je pense pas. Je pense que c'est bien de réécouter à travers un discernement des esprits ce que veut vraiment dire l'Esprit Saint au peuple de Dieu. Il n'y a pas de danger à travers cela. Un exemple pratique de...
Rapidement, ce que j'aimerais juste donner quand même un petit peu la parole.
De mise en œuvre des synodes. C'est-à-dire que pendant les synodes, après que les gens parlent, au lieu que ce soit un parlement...
Il y a un temps de silence.
Il y a un temps de silence, oui. Un temps de silence. Je pense que cette notion d'écouter l'esprit parler, voilà. Alors certains ont peur que ça soit l'occasion d'une manipulation en faisant passer des idées qu'on fait croire que le peuple de Dieu a dit. C'est vrai qu'il y a des diocèses, par exemple dans la préparation du synode sur la famille, il y avait 50 retours de personnes, mais ça ne représentait pas, les aspirations par exemple pour les familles, il y avait eu que 50 recours de circulaires, de questionnaires.
Les délais étaient courts aussi, donc c'est...
Les délais étaient courts.
Il va y avoir du temps.
Mais je dirais, attention à donner une crédibilité trop grande à ces retours de la base. Voilà.
Emmanuel Perrier, c'est un peu la question piège parce qu'il nous reste une minute, mais si vous aviez un commentaire.
Mon commentaire, c'est, ça fait, ça fait 60 ans qu'il y a l'essai de nouveaux modes de ce qui était des conciles ou des régionaux, locaux, dans l'histoire de l'Église, sous une forme nouvelle de ce qu'on appelle, on l'a appelé synode, bien, très bien. L'expérience des 60 ans jusqu'à 60 dernières années ne m'a pas paru très convaincante. Pourquoi ? Non pas parce que l'idée d'un synode serait mauvaise, je pense qu'elle est très bonne.
Vous parlez des synodes ou des conciles, les deux dans
le... Non, les synodes. Ce que j'appelle synode, c'est-à-dire ces assemblées locales, limitées, sur lesquelles on discute, il y a une rencontre des chrétiens, ou des, sur des sujets, ou des évêques, sur des sujets. L'expérience des synodes diocésains en France, on en a eu beaucoup. Il faut que ce soit très bien organisé pour que ça ait une utilité. Ça nécessite énormément de travail, ça demande beaucoup d'efforts, et ça demande surtout de ne pas être, pris par quelques-uns, pris en main par quelques-uns, qui vont essayer de transformer ce synode en leur propre manière de concevoir les choses. Et ça, c'est très compliqué. Très compliqué de maîtriser la parole, très compliqué de faire qu'une discussion soit féconde et fructueuse. Voilà. Donc tout dépend de la manière dont c'est fait. Et là, il faut faire très attention.
À suivre. Merci beaucoup d'avoir été fidèle au rendez-vous et de vos éclairages toujours intéressants pour les auditeurs. Un grand merci à vous. Cette émission a été à la technique Christophe Aubry. Vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.